Les élections régionales permettent d'élire au suffrage universel des conseillers régionaux pour 6 ans.
Est-ce que vous avez voté hier pour le premier tour des régionales ?
Ah non, j'ai pas voté.
Alors les jeunes et la politique, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Vous en pensez quoi ?
Eh bien, bien sûr que si, les jeunes et la politique, ça fonctionne. La preuve, on est encore levé de bonne heure pour couvrir les élections régionales sur Radio Campus Tours. Pour rappel, le premier tour de ces élections aura lieu dimanche 6 décembre. On vous encourage à aller voter puisqu'il va permettre d'élire les premiers conseillers régionaux depuis la réforme des régions. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, vous vous demandez pour qui aller voter, s'il faut aller voter. On va tenter de vous donner un avis avec Simon et Wilfried ce matin. Bonjour.
Bonjour Maxime, bonjour Madame Panlou.
Bonjour.
Et oui, nous recevons ce matin, pour représentante de la liste Debout la France, Alix Panlou, tête de liste aux élections régionales.
Bonjour.
Alors, Alix Panlou, on va tenter de vous présenter un petit peu, pour que les auditeurs se familiarisent avec vous. Alors, vous sortez de Mathsup, vous aimez les chevaux.
Oui.
Vous avez à peine 30 ans et vous avez déjà 3 élections à votre actif.
Exactement. Donc je ne me suis pas arrêté à Mathsup. J'ai fait aussi une école d'ingénieur et j'ai été au Canada faire des études.
Voilà. Et vous avez déjà 3 élections à 30 ans.
C'est la cinquième. C'est la cinquième.
C'est la cinquième, en fait.
C'est la cinquième, oui. Il y a, eu les municipales de Bourges sur une liste d'hiver droite. Et puis après, avec Debout la France, donc les européennes, avec Patrice Courfortune, les sénatoriales, c'était plus anecdotique qu'autre chose. Les départementales, où mine de rien, on a fait un relativement bon score, puisqu'on a fait 8,4%. Et puis là, les régionales, donc la cinquième.
Donc celle-ci, c'est la cinquième. Alors, en toute objectivité, à 30 ans, autant d'élections, c'est une carrière prometteuse ou un parti qui manque de candidats ?
Je pense pas qu'on manque de candidats, mais par contre, c'est plus que j'ai tellement la foi dans ce que je veux prôner, dans ce que je veux faire, que c'est pour ça qu'on me donne l'opportunité justement de foncer en disant « écoute, tu veux faire, vas-y, fonce ».
Voilà, on vous donne votre chance, c'est la méritocratie en quelque sorte.
Oui, méritocratie aussi, effectivement. Et puis après, je pense qu'il faut également du renouveau, parce que voir tout le temps les mêmes têtes tourner, bah, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens pour les électeurs.
Oui, même si 30 ans à 30 ans au sénatorial, c'est pas les bancs du Sénat ne sont pas habitués à des personnes aussi jeunes.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un peu anecdotique pour les sénatoriales, parce qu'effectivement, bon, c'était plus pour présenter nos idées aux différents maires que pour être élu pour les sénatoriales.
Alors, votre première élection, c'était avec Feu, l'UMP, mais vous en êtes parti, pourquoi ?
Alors, j'ai jamais été à l'UMP, en fait. J'étais donc sur une liste d'hiver droite qui était conduite par un ancien UMP qui a été viré l'UMP au moment des municipales, puisqu'il a fait une liste dissidente d'hiver droite. Et moi, ce qui m'avait intéressé, c'était justement de me dire voilà, il y a trop de choses qui vont pas, je peux pas rester dans mon fauteuil assise et puis regarder ma ville qui s'enfonce comme ça. Et en fait, je me suis impliquée entre le mois de juillet 2013 et puis le mois de janvier-février 2014. Et puis, 2 mois avant l'élection, j'ai commencé à être un petit peu dégoûtée par le clientélisme qui était proposé par ma tête de liste.
C'est-à-dire ?
Si vous voulez, quand vous commencez à vous adresser aux différentes communautés, au lieu de considérer que les habitants de la ville forment un tout, pour moi c'est du clientélisme, en disant voilà, on va vous proposer mettons des repas adaptés, on va proposer ça pour telle communauté, et à un moment donné c'est pas ce que je prône, c'est l'unité nationale moi que j'ai envie de faire monter.
D'accord. Et vous n'avez donc jamais tenté de postuler à l'UMP ?
Alors, si, je m'en étais un petit peu rapprochée, et puis on m'a dit, écoute, colle pendant 6 ans. Au bout de 6 ans, on va peut-être te trouver une place de conseiller municipal, mais tu sais, t'as aucun avenir. Voilà. Donc, du coup, un truc qui motive bien, en fait, pour s'engager en politique. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, j'ai des idées, j'ai des convictions, j'ai de l'énergie. Et il faut absolument que je les mette au service de la France pour, justement, essayer de faire, de faire sortir des qualités françaises qui pourraient nous sortir de la crise. Et ça, ce soutien-là, je l'ai trouvé auprès de Debout la France, puisque c'était vraiment totalement mes idées, puisque on prône le gaullisme social, donc ça défendait totalement mes idées. Et c'est pour ça que je me suis investie autant auprès de Debout la France.
Alors, donc, vous avez connu la divers droite, vous n'avez pas eu l'occasion de connaître Feu, l'UMP. Maintenant, vous êtes à Debout la France. Quelle est la différence ?
La différence, c'est qu'on est un parti un petit peu, on va dire, familial, où tout le monde se connaît.
Familial, parce que vous êtes peu nombreux ?
Parce qu'effectivement, on est peu nombreux, et donc on prône une politique de conviction, ce qui fait que, vu les scores qu'on était habitué à faire les dernières années, sachant qu'on est un jeune parti, hein, c'est un parti qui date de 2009, Donc du coup finalement ça accroche très peu d'opportunistes et on a plus des gens qui sont là pour défendre leurs convictions que par opportunisme. Et c'est ça qui vraiment me séduit auprès de Debout la France.
Oui, moi j'ai quand même souvent l'impression que justement vous souffrez un peu de cette image de parti familial. Par exemple, au niveau national, il y a beaucoup de chroniqueurs, comme je ne sais pas si vous connaissez Cyril Eldin sur Canal+, qui vont voir Nicolas Dupont-Aignan pour leur dire au second tour pour qui allez-vous appeler à voter. Vous pensez vraiment que vous allez pouvoir faire un score en rigolant un petit peu. Et quand on va sur la page Facebook de Debout la France en région centre, il y a 600 j'aime. Ce qui est quand même assez représentatif par rapport aux 30 000, 40 000 j'aime de l'UMP, du PS. Vous pensez pas vraiment qu'il y a quelque chose à faire, recruter du monde vraiment pour lancer une dynamique ?
Écoutez, je pense que le militantisme et l'engagement auprès d'un parti se perd énormément en France. Et c'est vrai que maintenant, il y a de moins en moins de personnes qui s'engagent dans un parti,
ça
que ce soit l'UMP,
Oui, le Front National, ils ont plutôt le vent en poupe.
Ils ont plutôt le vent en poupe, mais ça va attirer des opportunistes, hein, des gens qui savent que s'ils vont se présenter sous cette étiquette-là, ils auront sans doute une place.
Bien sûr.
Donc, voilà, mais d'une manière globale, en fait, il y a de moins en moins de gens qui s'investissent en politique. Et c'est vrai que le fait qu'on soit un jeune parti favorise cette image familiale. Après, effectivement, parfois, ça peut jouer contre nous, parce que quand on essaie de faire sortir d'autres personnes que Nicolas Dupont-Aignan, voilà, c'est des têtes qui sont un petit peu inconnues, et puis les médias traditionnels nous écartent un petit peu, parce qu'ils veulent absolument Nicolas Dupont-Aignan et personne d'autre.
La preuve que non, puisque nous, on vous a invité.
Exactement.
Alors, vous êtes un parti donc qualifié de droite sur l'échiquier politique. Alors, la différence idéologique n'est pas forcément claire entre les Républicains et vous. Est-ce que vous pouvez nous la résumer ?
Si vous voulez, dans les Républicains, vous allez avoir plusieurs courants. Hein. Vous allez avoir les libéraux, les gaullistes. Voilà. Vous avez plusieurs courants qui se battent un petit peu en duel. Et du coup, parfois, c'est un peu à celui qui râle le plus fort qui remportera sur les autres. On a des points communs, effectivement, mais on se présente aussi comme un parti de rassemblement. Il faut savoir que là, dans les dernières personnes qui nous ont rejoints, on a quand même aussi pas mal de gens de gauche qui sont déçus.
Et vous n'avez des points communs qu'avec les Républicains
ou avec d'autres partis ? On a des points communs avec d'autres partis, avec
comme
des partis
souverainistes,
par exemple l'UPR, avec. Voilà, on a des points communs également avec le parti de Chevènement. Voilà, on a plein de points communs différents. Et en fait, comme on se veut un parti de rassemblement, on essaie de dire, voilà, je pense que les gens s'éloignent de la politique parce que, justement, il y a un cloisonnement qui n'est pas sain. Le fait de dire, effectivement, c'est un parti de gauche, par exemple, peut prôner des bonnes idées, autant les mettre en avant avec eux comme certains partis de droite peuvent également prôner des bonnes idées, on est vraiment le parti de rassemblement et on se veut en fait au-dessus de la sphère politique traditionnelle.
Alors, sur votre idéologie, votre parti se réclame du général de Gaulle.
Oui.
Mais comme tous les partis républicains, en fait.
Non, vous avez, comme je vous dis, des partis libéraux, c'est pas vraiment le général de Gaulle.
En tout cas, il existe très peu de partis républicains qui ne reconnaissent pas l'héritage du général de Gaulle dans leurs convictions.
Oui, mais est-ce qu'après, derrière, ils mettent justement leurs convictions en accord avec ce que prônait le général de Gaulle? Je suis pas totalement sûr qu'ils respectent la mémoire du général de Gaulle là-dessus. Hein.
Alors, un sondage commandé par la Nouvelle République d'il y a un mois vous donne à 4%.
Oui.
À 4%, il faut 5% pour obtenir un siège. Êtes-vous prêt à vous allier à un autre parti?
Alors, il n'y aura ni alliance, ni fusion. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on commençait à gouverner au sondage, ben, on n'aurait pas fini. Et en plus de ça, je vais m'adresser un petit peu aux matheux, on sait très bien qu'il y a une marge d'erreur qui est de plus ou moins 4%. En plus de ça, vous rajoutez le fait que le sondage a été fait uniquement sur mon nom. Alix Panloup, Debout la France, ça parle pas. Hein. Mais par contre, si on dit Debout la France, c'est le parti de Nicolas Dupont-Aignan, tout de suite ça parle. On dit, ah oui, je me souviens des idées qu'il a prônées dans la dernière émission télé ou à la radio.
Voilà. Il est important de rappeler à nos auditeurs que Nicolas Dupont-Aignan n'est pas tout seul à Debout la France.
Oui.
On va passer un petit peu au programme parce que nous sommes là pour parler des élections régionales qui seront les premières depuis une réforme territoriale du 16 janvier 2015, qui a instauré les grandes régions. Alors, ces élections vont permettre la mise en place de cette réforme. Votre parti et vous s'est opposé à la réforme territoriale. Vous avez d'ailleurs déclaré, je cite, « Les grandes régions vont nécessairement aboutir à la mort de la ruralité ». Pourquoi vous vous présentez alors ?
Eh bien, tout simplement parce que pour l'instant, les régions ne seront pas supprimées. Nous, ce qu'on prône, c'est une France à 70 départements. Si on laisse faire, on va avoir une concentration des richesses vers les grosses villes des différentes régions. Donc, on peut être effectivement opposé à ces grandes régions, mais si on ne se présente pas, on ne pourra pas agir justement pour faire en sorte de rééquilibrer le territoire. Donc, d'où la nécessité de se présenter à ces élections.
D'accord, voilà qui est justifié. Je propose qu'on passe aux questions du programme avec Simon et Wilfried.
Oui, moi je vais commencer parce que dans votre programme, vous avez une partie moralisation de la vie politique. Nous, c'est assez intéressant quand même parce que vous êtes l'un des seuls partis à parler de cette moralisation de la vie politique. Et dans cette partie, vous proposez que tous les élus mis en examen ou condamnés soient, je cite votre programme, invités à démissionner. Mais en fait, juste les inviter à démissionner, vous savez très bien qu'ils peuvent décliner une invitation et que peut-être qu'il y aura une tolérance qui continuera d'être. Pourquoi pas leur dire, si vous êtes condamné, on vous forcera à démissionner?
Tout simplement parce que pour l'instant, on n'a pas de cadre législatif qui force un élu à démissionner. Donc au début, c'est ce qu'on avait mis, justement, tout élu condamné sera exclu. Sauf qu'on ne peut pas l'exclure comme ça. C'est pas, pour l'instant, le cadre législatif n'est pas présent pour exclure un élu. Donc on peut, dans un premier temps, que l'inviter à démissionner.
Ce qui est déjà fait par d'autres partis, les inviter à démissionner.
Oui. Mais tant mieux, si on a une convergence d'idées avec d'autres partis.
Je pense qu'inviter à démissionner un élu qui est condamné, ça... Il démissionnera pas, ça c'est sûr.
Mais ce qui est sûr, c'est que une fois élu, je ferai tout justement pour faire passer dans la réglementation, et ben ce point-là, et ça, c'est un point qui est commun à toutes les régions et commun à Debout la France, on fera tout justement pour faire passer dans la réglementation le fait qu'un élu condamné devra être exclu.
Alors, l'un des grands principes de votre parti, c'est d'avoir les mains propres, d'éviter les affaires judiciaires, d'éviter les promesses non tenues. C'est pour ça que vous ne gagnez pas ?
Non, je pense que pour l'instant, effectivement, on n'a pas encore beaucoup d'élus parce qu'on est un parti jeune. Comment comparer un parti comme le nôtre qui a 6-7 ans à un parti qui a 40-50 ans, c'est pas chose évidente, mais on monte petit à petit, et ce que je constate, c'est qu'à chaque élection, on double notre score. Mais c'est vrai que c'est dur, effectivement. C'est un chemin qui est vraiment dur à emprunter, qui nécessite beaucoup d'énergie. Mais en même temps, on peut derrière se regarder dans le miroir en disant voilà, on aurait fait les choses bien.
Et vous avez vraiment l'espoir qu'un jour Debout la France monte et accède peut-être au pouvoir?
Mais c'est sûr.
C'est même sûr.
C'est qu'une question de temps. Comme je vous dis, on se compare à des partis qui ont 40 ans. On n'a que 7 ans au niveau du parti. Donc, il faut le temps de grandir. Et Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc, Debout la France ne se fera pas non plus en un jour.
Et vous avez tout le temps devant vous. Alors, sur ce principe qui est d'avoir les mains propres, vous avez proposé des choses concrètes. Par exemple, de vous aider des nouvelles technologies pour que les électeurs puissent vérifier que vous tenez vos promesses.
Exactement. Alors, ce qu'on propose, c'est faire un peu le même principe que pour les commerciaux, c'est-à-dire qu'en début de mandat, l'élu marque ses différents objectifs, ses différentes promesses de campagne sur le site internet de la région. Et en fin de mandat, on fait le bilan. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été réalisé et pourquoi? Et qu'est-ce qui a été réalisé en plus? Et Nicolas Dupont-Aignan l'a fait dans sa ville d'hier et ça marche très très bien.
Et vous pensez qu'un candidat qui truque ses comptes de campagne, il l'écrirait dedans, par exemple, qui ne tient pas ses promesses, l'écrirait dans... Ce que je sous-entends par là, c'est que, étant donné que c'est vous qui mettez en place ce bilan, il est aussi fiable qu'un rapport de conseil régional ou qu'une déclaration publique, c'est des solutions qui existent déjà.
J'ai du mal à comprendre où vous voulez aller, en fait, dans votre question.
C'est-à-dire que si vous voulez, en quelque sorte mettre en place, par le biais des nouvelles technologies, un rapport avec la fiabilité, les pourcentages, les promesses non tenues, mais c'est très facile à truquer. Et ces rapports existent déjà à travers les déclarations publiques, à travers les documents que font circuler les partis au pouvoir, à travers les commissions publiques.
Justement, il y a beaucoup de promesses de campagne qui circulent via les déclarations publiques, via les documents, etc. Mais derrière, c'est très vite oublié tout ça. Donc justement, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut que ça soit justement tenu public et centralisé sur le site des différents conseils régionaux. D'une autre manière... effectivement, après on peut marquer ce qu'on veut, mais on compte aussi sur la vigilance des citoyens pour dire vérifiez-nous, regardez notre action et vérifiez que notre action justement est en accord avec ce qu'on avait promis pendant la campagne. C'est trop facile de promettre et puis derrière de pas réaliser. Donc le fait rien que de l'écrire en début de mandat permet d'engager le candidat et l'élu. Sur une voie justement de moralisation.
On va passer à la suite du programme.
Oui, moi je vais parler d'une chose qui m'a un peu étonné. Bon, c'est pas forcément mal de mon point de vue, mais mon point de vue n'est pas intéressant. On situe souvent Debout la France entre la droite et l'extrême droite. Nicolas Dupont-Aignan a souvent fait des interventions sur l'immigration, sur la sécurité. Dans votre programme, il n'y a rien qui évoque l'immigration et la sécurité. Depuis quand Debout la France n'évoque pas l'immigration et la sécurité? Est-ce que c'est réfléchi?
Alors, l'immigration et... Alors, la sécurité, je crois qu'on en parle un petit peu, mais...
On parlait juste des policiers, de la police des transports, mais à part ça, pas...
Pour l'immigration, c'est beaucoup plus présent, on va dire, dans les régions frontalières, notamment avec les établissements des camps de migrants. C'est un thème qui reste d'actualité. Par contre, pour ces élections régionales-là, j'ai voulu proposer des choses qui soient en accord avec le Conseil régional. Effectivement, je peux vous parler de Schengen, mais la région n'a pas d'influence sur le contrôle des frontières. Donc, pourquoi parler de thèmes pour lesquels la région, justement, n'a pas la main dessus?
Ah oui, mais non, mais de toute façon, moi, je veux pas que vous parliez de Schengen, mais c'était juste que j'ai été étonné de voir ça.
Alors, c'est toujours des valeurs que l'on prône. Effectivement, dans le programme officiel, on n'y fait pas énormément référence. Après, là où on y fait quand même référence, ça va être par rapport aux travailleurs détachés. C'est-à-dire que, en fait, pour les marchés publics, justement, donc je marquais un critère de mieux-disance, pour favoriser les entreprises de la région, et notamment les entreprises qui ne prennent pas de travailleurs détachés.
Oui, le fruit de mon problème.
Justement, c'est quoi un critère de mieux-disance? Vous pouvez l'expliquer un peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas?
Donc, si vous voulez, c'est des points bonus, en fait, qui permettent de favoriser, on va dire, une entreprise plutôt qu'une autre et sans se baser uniquement sur le prix, par exemple. Ça, c'est un principe qui est utilisé couramment par EDF, par exemple, pour travailler avec ses entreprises prestataires. Tout simplement... Qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout simplement, on dit, bah, par exemple, si une entreprise de la région, on va mettre plus un point. Si une entreprise qui prend pas de travailleurs détachés, bah, plus un point. Et au final, bah, justement, on arrive à des petits points supplémentaires qui fait que le prix n'est plus le seul critère, justement, de décision. Et ça, l'Allemagne l'a bien compris, puisqu'elle le fait dans ses appels d'offres.
Donc ces points vont permettre, une entreprise qui aura plus de points pourra plus facilement remporter un appel d'offres.
Exactement, et ça va permettre de favoriser les entreprises de la région, qui sont pas forcément toujours des grosses entreprises, bah face à, on va dire, des multinationales qui postuleraient sur le même appel d'offres.
D'accord, mais les appels d'offres aujourd'hui, c'est les marchés publics, et l'encadrement des marchés publics, il est agi par le code de la propriété des personnes publiques, pas par vous.
Donc, effectivement, c'est le code des marchés publics, dit, on n'a pas le droit de dire, voilà, je veux pas prendre une entreprise qui ne soit pas de la région. D'accord. Ça, c'est pas possible. En revanche, il nous est tout à fait possible de dire, ben voilà, il y aura des points en plus si vous êtes une entreprise locale. D'accord. Ça, c'est joué sur, effectivement, c'est joué sur les mots, joué sur la loi, mais, oui. Mais c'est l'Allemagne le fait couramment, hein, et c'est pour ça qu'ils arrivent à maintenir un niveau de productivité aussi élevé, justement, parce qu'ils favorisent les entreprises allemandes via ce système-là.
D'accord.
On va passer à l'agriculture, peut-être ?
Oui, bah alors, toujours à moi. Vous annoncez que l'axe de l'agriculture s'avère incontournable. Le FN aussi veut le redynamiser. Le PCF veut créer une association qui lui sera dédiée. Aujourd'hui, le rural, c'est un peu la préoccupation de tout le monde.
C'est quand même les agriculteurs qui nourrissent la France. Donc, les mettre de côté, ça serait complètement injuste. Donc, ils sont dans une détresse absolue. Ils empruntent pour faire des mises aux normes qui sont toujours de plus en plus chères et contraignantes parce que Bruxelles justement met des normes de plus en plus contraignantes et du coup c'est pour ça qu'il faut les soutenir.
La question subsidiaire, c'est que tous les partis ont l'air d'avoir conscience de ça. En quoi le vôtre serait meilleur pour eux?
Déjà, il y a plusieurs aspects. Donc, il y a un aspect financier, c'est-à-dire développer les circuits courts, mais ça, c'est prôné aussi par beaucoup de parties. Développer les filières bio, pareil, c'est prôné aussi par beaucoup de parties. Aider donc les agriculteurs à s'installer, à faire des rénovations, mais également... Un point qui peut être un peu plus développé, bah, c'est les exportations. Je pense par exemple au vin de la région. Les viticulteurs en région centre n'exportent que 20% des vins. Si on compare au Bordelais, on a un export des vins à l'international qui est près de 50%. Donc on peut justement les appuyer pour essayer bah, de développer la visibilité de l'agriculture française et régionale à l'étranger.
Justement, comment on peut renforcer les exportations comme ça? Vous le prenez dans votre programme, il n'y a pas de mesures concrètes expliquées sur le programme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous comptez renforcer ces exportations, notamment de vin par exemple?
Alors ça passe notamment par des salons. Je vais prendre l'exemple de Berry Province, par exemple. Berry Province, donc c'est entre guillemets un super office de tourisme qui réunit le Cher et l'Indre. Eux, en fait, quand ils font beaucoup de salons pour prôner le tourisme en Berry, quand ils font des salons en France, il n'y a pas grand monde sur les stands, hein, franchement. Par contre, quand ils vont à l'étranger, en Angleterre, en Hollande, ils mettent un beau stand Berry Province avec une de chevaux, vous avez la queue jusqu'au bout du salon. Donc, il faut oser justement aller voir nos voisins étrangers en prenant nos valeurs. Et comme je vous dis, ça passe par des salons, ça passe par des participations à des notations, par exemple, sur le vin. Si je prends l'exemple du vin à l'étranger. Ça passe par tout un tas de points.
Très bien.
Moi, je vais évoquer l'emploi, l'économie. Vous savez aussi bien que nous, que vous savez que l'axe Tours-Orléans a été énormément privilégié ces dernières années dans la création d'entreprises, mais qu'on est quand même une région où il y a des difficultés. Il y a des difficultés au niveau de l'entreprise, de l'emploi. De là où vous venez, dans le Berry, c'est quand même pas un endroit où il y a... où il y a des facilités à ce niveau-là. Comment vous voulez régler les problèmes des autres départements que l'Indre-et-Loire et le Loiret, même si ça nous intéresse surtout l'Indre-et-Loire vu qu'on est à Tours, mais...
C'est vrai que l'axe Orléans-Tours a été relativement privilégié. Alors, tant mieux pour Tours, hein, c'est génial, mais par contre, je ne pense pas que ça soit la solution de privilégier des grosses villes, parce que ça fait du déplacement de population. Des grosses villes qui grossissent de plus en plus avec toutes les difficultés qui vont derrière, de transport, etc. Je pense qu'il faut avoir un développement raisonné. Comment s'étonner, on va dire, que les médecins ou les professionnels ne s'installent plus en zone rurale alors que l'État lui-même a démissionné? Il faut bien avoir à l'esprit que ce n'est pas les politiques qui créent de l'emploi, c'est les entreprises. Donc il faut s'adresser en premier lieu aux entreprises. Il y a des fonds qui ont été mis en place, par exemple le Fonds Sud, mais le Fonds Sud, il n'est pas utilisé dans sa globalité. Hein. Donc, ce qu'on propose, c'est notamment une plateforme de financement participatif régional, où toutes les entreprises...
Sur Internet, cette plateforme.
Sur Internet, ouais. Voilà.
J'allais y venir, mais...
Où toutes les entreprises qui déposent un dossier et qui lèvent au moins 1 euro seront financées. C'est-à-dire que actuellement, les plateformes de financement participatif qui existent, si vous n'atteignez pas votre objectif, vous récupérez pas la somme, le fonds que vous avez levé. Là, on dit, par exemple, le boulanger du coin en zone rurale qui a besoin de se moderniser, qui a pas forcément un gros volume de vente, s'il a, mettons, besoin de faire un investissement de 5000 euros, il peut s'appuyer sur cette plateforme-là. S'il lève, mettons, que 1 000 euros sur les 5 000 euros, la région peut très bien dire, on vous reverse 40% des fonds que vous avez levés.
Et avec quels moyens
Vous avez déjà des fonds qui sont dédiés justement au financement des entreprises. Donc il suffit de séparer en fait en deux ce fonds, de dire une partie d'aide aux entreprises qui continue à être attribuée sur dossier, et puis l'autre partie qui sera réinjectée dans le financement participatif.
Mais à quoi ça sert de redonner au final 40% de la somme levée? Parce que s'il a besoin de 5000 euros et qu'on lui reverse 40% de 2000 euros, ça lui sert à rien, il va pas réussir à monter son entreprise avec ça.
Alors, il aura quand même un fonds de départ et pourra présenter, on va dire, une garantie auprès des banques. En plus de ça, ça va créer un lien en fait entre les différents habitants et la petite entreprise en question. Ça sert de fonds de départ. Après, s'il n'a pas levé la totalité de la somme, c'est parce que la population n'a pas jugé justement que ce projet était assez pertinent. Mais il aura quand même quelque chose. Il repart pas entre guillemets sans rien. Et là, on s'adresse vraiment à toutes les entreprises.
Et vous pensez qu'aujourd'hui, dans le contexte un peu de crise générale, ça date pas de cette année, mais les gens ils se serrent de plus en plus la ceinture. Vous pensez que dans les milieux ruraux, notamment, par exemple, pour prendre l'exemple de la boulangerie, les gens vont être prêts comme ça à donner à plusieurs entreprises pour les financer?
Alors, j'ai un exemple. Dans le Loir-et-Cher, il y a quelqu'un qui a une bergerie, qui a monté sa bergerie il y a 2 ou 3 ans. Et en fait, il a eu une attaque de chien qui a décimé la moitié de son troupeau. Du coup, il est passé en dessous du seuil minimal de brebis pour avoir justement droit à des aides agricoles, etc. Et il est dans une situation financière catastrophique. En quelques jours, vous avez des milliers de gens ils se sont mobilisés, alors j'exagère un peu quand je dis des milliers, mais plutôt des dizaines de personnes, ils se sont mobilisés justement pour lui venir en aide au niveau financement. Et donc, il avait besoin de 3000 euros bah, justement pour pouvoir terminer l'année et puis avoir justement les investissements demandés. Et il a réussi à lever ces 3000 euros. Et pourtant, c'est un berger au fin fond du Loir-et-Cher. Voilà, après...
Le contexte pas aussi un peu particulier, on imagine bien que les médias ont dû parler d'une attaque de chien, qu'en plus il était déjà installé et que peut-être les gens étaient plus touchés parce qu'il a été attaqué qu'un jeune par exemple qui s'installe ou...
Un autre exemple qui est très connu, celui-là, c'est l'exemple du slip français, qui est une entreprise qui a décollé, qui n'a que 3 ans, ou 4 ans, je ne sais plus. Qui a fait justement qu'a monté son entreprise en bon certes en mettant un petit peu d'argent au départ mais qui a fait une grosse partie en financement participatif et qui aux dernières nouvelles est à plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires en moins de 4 ans. Donc là c'est un exemple qui fait que bah, le financement participatif ça marche. Donc autant s'appuyer dessus. Il y a des dizaines d'entreprises pour lesquelles ça marche. Il n'y a pas que les entreprises, il y a la restauration de monuments. De plus en plus, les villes font appel justement au financement participatif pour le financement de la restauration d'un monument. Et quel est l'intérêt de mettre en place une plateforme participative ? C'est qu'on a des apports financiers supplémentaires pour les entreprises, extérieurs aux différents fonds régionaux, ce qui permet, on va dire, d'avoir une intensification, on va dire, du financement des entreprises. Et ça évite d'augmenter des impôts ou autre. Et en plus, ça crée vraiment un lien. Les gens, ils ont vraiment l'impression d'aider l'entreprise à côté de chez eux. Ils ont un but, ils savent que passer par la plateforme de financement participatif régional, ils vont aider, en plus de ça, ils vont pouvoir mobiliser la région sur cette entreprise-là.
D'accord, je laisse la parole à Simon pour une question culture.
Oui, dans votre programme, vous voulez favoriser les projets culturels reposant sur notre histoire et notre patrimoine. Donc moi, je comprends pas du tout l'idée, parce que pour moi la culture c'est justement le fait de s'ouvrir à d'autres histoires, à d'autres cultures, à d'autres patrimoines. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ce nombrilisme, pourquoi à chaque fois qu'on parle de culture il faut se fermer sur la culture française, la culture, notre patrimoine, notre histoire, et faire attention à ne pas se laisser envahir par d'autres patrimoines?
Alors c'est pas la question de se laisser envahir.
Oui,
par
non, mais là j'exagère, mais ouais. C'est un peu ça l'idée qui ressort dès qu'on parle de notre patrimoine, de notre histoire et qu'il faut le protéger. C'est un peu ça qui est sous-entendu derrière quand même.
Il y a plusieurs choses. Par exemple, je prends l'exemple de la Biennale de Sologne. C'est une biennale qui coûte pas très très cher entre guillemets. Toute chose est relative, mais ça coûte que 200 000 euros avec des financements quasiment privés. Et l'avantage de cette biennale, c'est qu'elle irrigue 20 villages en Sologne. Donc là, en fait, on a une biennale qui va valoriser le patrimoine solognaud et qui expose, certes, des artistes français, mais également des artistes étrangers. Donc là, on se repose sur notre patrimoine, qui est de dire, voilà, on se repose sur les villages coloniaux qui ont une architecture bien particulière, qui ont un charme bien particulier. Et derrière, justement, autour de ça, on brode une belle exposition culturelle.
Et dans ce cas-là, favoriser les projets culturels qui se reposent sur notre patrimoine et notre histoire, ça ne veut pas dire défavoriser les projets qui ne s'y reposent pas ?
Ça ne veut pas dire défavoriser les... Effectivement.
Non, ça ne veut pas dire ça.
Ça veut dire mettre l'accent...
C'est quand même précisé. Reposant sur notre histoire et notre patrimoine.
Oui.
Vous ne pouvez pas dire... Il y a quand même une action ciblée sur le patrimoine qui nous appartient.
Oui, bien sûr.
Et donc, ça traduit un manque d'ouverture aux autres
patrimoines. Non, mais comme je vous l'ai dit, dans la Biennale de Sologne, il y a des artistes étrangers qui ont exposé... Et puis aussi, il faut peut-être prendre conscience que certes, les projets culturels internationaux, c'est bien, mais derrière, on a plein d'artistes en France qui méritent d'être exposés, qui méritent d'être accompagnés, Et je pense qu'il faut aussi avoir un peu de patriotisme culturel, et justement, en aidant ces jeunes artistes. Et ça passe également par les écoles des beaux-arts. Je pense à l'école des beaux-arts de Bourges, qui est une des meilleures écoles de France. Il faut aussi la mettre en avant et puis faire en sorte qu'on soit reconnu à l'international pour ça.
Alors, je me trompe peut-être, mais pour moi, la culture, c'est quelque chose que les gens s'approprient.
Oui.
Donc, si la culture française, mais qu'on apparente à la culture historique, va mal, il y a peut-être une autre raison.
Je pense que la raison, c'est que on s'appuie un peu trop sur nos acquis. C'est-à-dire de dire, voilà, on a des belles maisons à colombages, on a des belles cathédrales, on a des beaux châteaux, et puis visiter le château, et puis il n'y a rien derrière. Alors que je prends la différence avec des musées à l'étranger, par exemple au Canada, où je sais bien qu'ils n'ont pas une histoire relativement étendue, mais eux, ils ont des musées vraiment vivants, avec des animations, avec quelque chose qui fait vivre et qui met en relation en fait le passé avec les technologies d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut absolument réussir à mettre en place.
Alors, cette interview touche bientôt à sa fin. On a une dernière petite question. Que pensez-vous du Front National ?
Écoutez, le Front National, je pense que ça représente quand même près d'un électeur sur trois. Donc, il faut arrêter de l'ignorer comme le font les grands partis. Parce que si on l'ignore, ça veut dire qu'on va lui laisser le champ libre de nombreux thèmes, par exemple l'immigration, par exemple le contrôle des frontières, et puis ils n'auront jamais aucun contradicteur en phase 2, et ça, c'est franchement dommage.
Alors, précisons quand même, vous dites que ça représente un électeur sur trois, ça représente un Français qui va voter sur quatre en réalité, parce qu'à chaque fois il y a un taux d'abstention, il y a des fluctuations. Mm-hmm. Avec 100% de participation, il n'y a jamais eu 33% de gens qui votaient FN, et heureusement.
Je pars du principe où les gens qui votent sont représentatifs de l'entière population.
Alors, justement, en parlant du Front National, hier nous recevons Daniel Fragzac, tête de liste Indre-et-Loire du Front National, et on a pour tradition dans cette émission de l'autoriser à poser une question de l'invité suivant. Voilà ce qu'il vous a demandé.
Mais est-ce que Debout la France se trompe pas ? Se trompe pas de combat ? Parce que clairement, il y a une feuille de papier à cigarette sur certaines thèses de Debout la France et les nôtres. Et notamment, leurs positions sur l'Europe sont plus que semblables. Et je me demande ce qu'ils viennent faire sur l'échiquier politique, alors que le Front National couvre déjà tout le champ qu'ils sont en train d'essayer de défendre. Et je ne vois pas bien la différence entre leur politique et la nôtre. Et je pense qu'il ferait mieux peut-être d'ouvrir une discussion au niveau national avec nous, parce qu'il y a quand même pas mal de points où on pourrait s'entendre.
Alors, qu'est-ce que vous avez à lui répondre ?
Alors, comme je l'ai dit en début d'émission, toute bonne initiative est bonne à prendre. Par contre, nous, ce qu'on prône, c'est le nécessaire.
C'est-à-dire, toute bonne initiative, qu'est-ce que ça sous-entend ?
Ça signifie que, effectivement, oui, comme il l'a dit, on a des points communs avec eux, comme on a des points communs avec le Front de Gauche, par exemple. Donc, on peut pas le nier quand il y a des points communs. Mais par contre, on a également des différences. Et ces différences permettent de préserver notre indépendance et permettent également, justement, de prôner d'autres choses, parce que, comme je vous l'ai dit en début d'émission, on prône le gaullisme social, et notamment, il y a beaucoup de mesures sociales que ne prône pas le Front National.
Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Une simple question, vous seriez prêt à ouvrir une discussion, voire à faire une alliance au Front National, oui ou non ?
Alors, moi, c'est clair, pas d'alliance avec aucun parti.
D'accord, merci beaucoup. On va devoir aller plus vite. Vous pouvez poser une question à Isabelle Gaudron du Parti Socialiste que nous recevrons lundi matin à 7h. Qu'avez-vous à lui dire ?
Je voudrais lui demander si, justement, ils ont pas marre de prôner une politique qui, quand on voit comment elle est appliquée sur la scène nationale hein, par Hollande, qui, à mon avis, est un petit peu obsolète. Et voilà, comment ils peuvent se démarquer? Ma question, ça serait plutôt comment ils peuvent se démarquer de la politique de François Hollande. Pourtant, c'est le même parti.
Merci, Alix Panlou, d'avoir répondu à notre merci. Invitation et d'être venu représenter Debout la France. Merci à Simon, merci à
Maxime
de m'avoir accompagné.
Merci, Madame Panlou.
Merci.
C'est la fin de cette première semaine de couverture des élections régionales. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, à 7h lundi. Vous pouvez réécouter cette émission podcast qui sera en ligne dès ce week-end sur le site de radiocampustour.fr. Je vous souhaite une bonne journée. À lundi.